beaucoup porté sur les Caraïbes et sur l'enseignement aussi de l'esclavage. On s'était rencontrés déjà à ce propos. D'où est venue l'idée de ce livre en commun et quelle en est l'idée originale, innovante, comme on nous dit dans la préface qui insiste sur les innovations de la démarche que vous avez entrepris, une préface qui insiste sur la mise en perspective de l'histoire de l'esclavage. Et d'abord, est-ce que c'est une histoire de l'esclavage? Ça s'appelle Être esclave.
Non, c'est une histoire des esclaves. Ce n'est pas une histoire de l'esclavage. Bon, c'est la première différence que nous avons voulu faire. Je réponds à la question, parce que je ne sais pas si Eric le dirait avec la même fermeté que moi. Celui qui a eu l'idée, c'est Eric, qui m'a dit on devrait faire un livre. À une époque, on l'a commencé 2 ans, on a mis 2 ans quand même pour le faire, où l'histoire de l'esclavage, entre autres, commençait à être enseignée tout juste, mais avait été très peu enseignée ou pas du tout pendant des décennies, et par conséquent, il fallait donner un instrument à ceux qui étaient curieux, de façon générale, aux enseignants qui allaient l'enseigner, puis à tous ceux qui avaient envie de connaître un petit peu la question. Donc nous avons voulu faire ensemble un livre, je dirais pas grand public, mais un livre qui soit lisible par tous ceux que ça intéressait. Et ça, c'était l'idée. Et un livre qui, comme je le disais, soit l'histoire des esclaves, c'est-à-dire que les esclaves, qu'on considérait toujours comme, ma foi, dans l'histoire classique, cueillis sur les côtes de l'Afrique, ça c'était mon côté, hein, cueillis sur les côtes d'Afrique où ils étaient tombés du ciel. Bon, ils n'étaient pas tombés du ciel, ils étaient devenus esclaves, ils avaient été esclavisés, comme on dit, en Afrique, c'était toute une histoire. Et donc, on avait envie de montrer à quel point, pendant une période très longue, leur vie avait changé, avait évolué, les choses s'étaient faites différemment, autant vers l'Atlantique Sud que vers l'Atlantique Nord. Et bon, à partir de là, on est parti avec l'idée que il y en avait une qui allait plutôt travailler sur le départ, et puis l'autre qui allait plutôt travailler sur l'arrivée. Et moi, je donne la parole pour la suite.
Oui. Alors, d'autre part, je tiens quand même à rendre hommage à l'auteur de la préface, hein, qui n'est pas n'importe qui, qui est Ibrahim Mathioub, qui est un très très grand historien sénégalais et qui est devenu d'ailleurs depuis quelque temps recteur de la, oui. On dirait président, recteur de l'université Cheikh Anta Diop, excuse-moi, de Dakar. Donc on a eu vraiment le plaisir et l'honneur d'avoir cette très belle préface d'Ibrahim Mathioub. Sinon, de mon point de vue, et de toute façon, on a travaillé constamment ensemble, en échange téléphonique ou mail ou direct avec Catherine, c'était aussi, elle l'a déjà dit, c'était aussi reprendre de façon un peu systématique cette idée qu'on n'a pas inventée, mais il s'agissait de la mettre en forme, que les esclaves sont aussi acteurs de leur histoire. Puisqu'ils sont faits par l'histoire, comme on dit que les hommes, que les races sont faits, ils sont aussi faits par l'histoire. C'est quand même ils sont victimes, évidemment, hein, il ne faut pas non plus tordre le bâton trop dans l'autre sens. Ils sont bien évidemment victimes d'un système d'exploitation féroce, mais ils vont réagir. Alors, la difficulté, elle est là, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur les dominés, les archives, parce que les historiens sont quand même obligés de travailler avec des traces, des sources, des archives. On n'a pas énormément. Alors, on a plusieurs moyens pour avoir accès à leurs paroles. Mais je dis ça à propos des esclaves. Je pourrais le dire dans un autre contexte. Je prends souvent cet exemple à propos des femmes paysannes au Moyen-Âge. Ils écrivent peu et tout est fait, y compris du point de vue des dominants vis-à-vis des esclaves, pour qu'ils écrivent le moins possible. D'ailleurs, c'est un très beau passage de Frédéric Douglas, où Frédéric Douglas évoque justement ces ruses qu'il met en place pour avoir accès à l'écriture.
Parce que c'était défendu. Une fois qu'ils étaient esclaves dans les Caraïbes ou aux États-Unis, il était interdit de leur apprendre à lire, parce qu'apprendre à lire, ça apprend à avoir des idées séditieuses et bref.
Et puis on les avait pas vraiment déportés pour qu'ils deviennent écrivains non plus. Hein. C'était pas ça le projet des dominants. Donc la question, elle était là. Alors il y a plusieurs façons d'avoir accès. En montrant les limites aussi, hein. Il y a des choses qui nous échapperont toujours. Mes premiers accès, c'est de ruser, entre guillemets, avec les sources, avec les archives des dominants. On a, par exemple, dans les colonies américaines, on a des registres. Alors, on peut savoir leur âge, on peut savoir le sex ratio, c'est-à-dire le nombre de femmes, le nombre d'hommes, on peut savoir, y compris leur état physique. On a, par exemple, une très belle source qui a été exploitée par des collègues québécois qui ont mis en ligne sur un site, ils ont mis en ligne toutes les annonces faites par les maîtres à Saint-Domingue dans les années qui précèdent la révolution saint-dominguoise. On a toutes les... Ce sont des annonces de fuite. C'est-à-dire que ces annonces de marronnage, c'est la presse, c'est des affiches américaines qui étaient la presse lue par les colons. Et quand un colon, un propriétaire d'esclave, a un esclave qui a marronné, qui a fui, ben, il passe une petite annonce. Et il y en a plusieurs milliers. J'ai oublié, je pourrais retrouver tout à l'heure. Enfin, il y a plusieurs milliers d'annonces. Et à partir de là, on peut avoir toutes sortes d'informations. Alors là, c'est bien les maîtres. Hein. C'est bien du point de vue des maîtres, mais on a des informations, là encore, sur... par exemple, pourcentage de femmes qui marronnent, elles sont-elles avec des enfants, sur des portraits aussi, parce qu'il faut les décrire physiquement, parfois on a des éléments psychologiques. Donc ça, c'est une façon d'avoir accès, je dirais, en contrebande, à la vie marginale de Saint-Louis.
Et puis l'autre. Oui. Pardon, excusez-moi, juste pour continuer là-dessus, ça remonte très loin, en fait, avec des sources dont on ne penserait pas qu'elles parlent des esclaves et qui en parlent pourtant pas mal. Ça remonte au temps des Portugais, qui étaient les premiers traitants en esclaves à partir du XVe siècle, par les sources de l'Inquisition et les procès faits par l'Inquisition contre tous les déviants. Alors, contre tous ceux qui, du côté du Portugal, se disaient nouveaux chrétiens, ça c'est une source d'ailleurs, parce qu'il y en a eu un certain nombre qui étaient marchands d'esclaves, mais aussi contre tous les esclaves déviants, en particulier... a été reconstituée une vie absolument fascinante au XVIe siècle d'un esclave qui a été pris en Angola, qui est parti au Brésil, mais qui avait des talents de soigneur. Et il soignait les autres esclaves, mais il soignait aussi les maîtres, parce que évidemment, la médecine n'était pas très avancée. Et il avait des résultats avec les bonnes herbes, les bons médicaments, mais il faisait peur aux maîtres. Donc le maître l'a vendu, il a fini par avoir peur, donc il est parti à Rio de Janeiro pour continuer. Et finalement, au bout de beaucoup d'années, de grandes difficultés, il a conquis sa liberté. Et à ce moment-là, l'Inquisition a mis la main dessus. Parce qu'avant, il était esclave, il ne comptait pas. Mais dès qu'il était devenu libre, donc, c'était un sorcier. Et donc il a été condamné, il a été envoyé au Portugal, et tout cet itinéraire a pu être reconstitué par les archives de l'Inquisition. Ce qui est... Juste pour donner un exemple de ce que tu disais.
Voilà, donc ça, c'est le détour. Alors, autre type de source que l'on peut utiliser pour avoir accès, toujours cette idée d'avoir accès à la parole des esclaves, en pensant que l'esclave a une pensée, se débrouille, il survit, mais il vit aussi. Et il n'est pas uniquement agile, il est aussi acteur. C'est ça, vous avez compris, ce qu'on essaie de valoriser dans un des aspects centraux de notre projet. L'autre type de source que l'on peut utiliser, qui est utilisé par des historiens, là on n'a rien inventé, on a d'ailleurs beaucoup utilisé les travaux de nos collègues, ce sont les archives judiciaires. Parce que quand un esclave est amené d'une façon ou une autre à avoir affaire à la justice, alors il faut jamais prendre les sources au premier degré. Quand on est face à un juge, déjà on n'est pas obligé de dire la vérité. Et puis on présente les choses d'une certaine façon. Mais bon. Avec un peu d'oreille, on arrive quand même à avoir accès, y compris on voit dans les années 1840 comment des esclaves vont utiliser la justice, y compris pour essayer d'améliorer leur sort. Donc ça, on voit aussi comment ils sont capables d'être au courant de ce qui se passe en Europe, quel mouvement abolitionniste. Donc les archives judiciaires peuvent être aussi un moyen. L'Inquisition, dans cette mesure, ce sont des archives judiciaires.
Oui, mais ce moyen de passer par la justice qui n'est pas respectée, ça a été aussi utilisé devant la justice portugaise dès le XVIe siècle. Parce qu'il y avait des esclaves qui se débrouillaient pour connaître le droit ou qui étaient bien conseillés, etc. Il y a eu quelques esclaves libérés, non pas par l'Inquisition, mais par le droit portugais, parce qu'ils avaient été pris de façon illégale, enfin, ils avaient trouvé une faille dans l'affaire. Alors évidemment, c'est l'exception qui confirme la règle, hein, mais c'est cela qu'on a trouvé. Et puis je suppose que là où tu voulais venir, surtout, c'était notre idée de départ, en fait. Nous allons trouver des sources... les plus primaires possibles, c'est-à-dire les paroles d'esclaves. Or, les paroles d'esclaves, il y en a énormément. Et nous avons, de toute façon, la chance que les chercheurs américains des États-Unis d'aujourd'hui ont démarré quand même bien avant la recherche sur cette question, parce que la question noire était vraiment très très pressante depuis une génération et réclamait vraiment l'histoire de leur passé. Donc il y a eu des collectes, là tu en parleras bien, des collectes très fortes de récits d'esclaves. Il y a beaucoup d'esclaves qui ont raconté leurs récits. Alors moi je vais parler de ma partie, parce que toi tu as beaucoup à dire là-dessus. Mon problème, c'était de trouver les récits d'esclaves de la première génération, c'est-à-dire ceux qui avaient été esclavisés en Afrique et qui arrivaient par un moyen ou un autre aux Amériques, soit dans l'Amérique du Sud, soit dans l'Amérique du Nord, soit dans les Caraïbes. Malheureusement, dans les Caraïbes, le travail n'est pas encore vraiment fait, il est en train de démarrer seulement, qui avaient raconté, effectivement, comment ils avaient été capturés en Afrique et comment ça s'était passé jusqu'à leur embarquement. Et nous avons beaucoup plus de récits que nous pourrions en penser, on va en entendre, je crois, tout à l'heure, mais des récits qui commencent dès la fin du XVIIe siècle. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a davantage au XVIIIe, et évidemment, tu expliqueras pourquoi, beaucoup plus au XIXe siècle, où la lutte contre l'esclavage commence à se développer aux États-Unis, dans les États non esclavagistes. Et alors, ces récits sont quelquefois, rarement, mais écrits directement par l'esclave, qui, par tout un itinéraire, a fini par apprendre à lire, à pouvoir écrire. Mais il y a une source particulière qui est à la fois, là aussi, à interpréter, parce qu'elle est partielle. Ce sont des esclaves qui ont été esclavisés en Afrique, je dirais un petit peu par accident, or c'est arrivé très souvent, et qui étaient déjà instruits en Afrique. Et il s'agit en particulier de l'entourage ou des enfants de chefs marchands d'esclaves musulmans des côtes d'Afrique.
Et arabisés.
Et sachant écrire l'arabe, ça existait dès le XVIIe siècle. Et donc, alors c'est en général un fils de chef. Son père lui disait, tu vas apprendre le métier, donc tu emportes avec toi deux ou trois esclaves et tu vas aller les négocier plus loin. Mais fais attention, surtout ne traverse pas cette rivière parce que c'est dangereux de l'autre côté. L'autre côté, c'était brigand et tu risques d'être pris. Bon. Le jeune n'arrivait pas à vendre ses esclaves, il était jeune et il traversait la rivière, il était enlevé avec ses deux esclaves et s'en faisait trois au lieu de deux pour le brigandage. Mais alors nous avons, c'est un chercheur en particulier, enfin c'est une équipe de chercheurs américains qui ont rassemblé quelques 150 à 200 récits de ce genre d'esclaves. Alors évidemment, il faut les interpréter dans la mesure où il ne faut pas oublier la masse, les millions d'esclaves qui ont subi tout sans pouvoir en parler. Néanmoins, ils ont vécu la même chose. Et ces sources sont extraordinairement précieuses pour comprendre l'itinéraire. Et ces sources se sont démultipliées après. Il y a beaucoup, il y a plusieurs milliers maintenant de récits d'esclaves, dont une grande partie est à la fois très riche, mais un petit peu moins intéressante historiquement, je dirais, dans la mesure où elles sont surtout du 19e siècle. Alors là, je te laisse la parole.
Non, moi j'ai un petit désaccord avec Catherine, mais tout ce qu'elle a dit, j'adhère. Elle dit beaucoup. Alors moi, c'est le problème du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je suis plutôt pessimiste. Parce qu'en fait, non, c'était moi. Enfin, évidemment qu'il y a une masse importante. Contrairement à ce que l'on croit souvent, il y a des textes, déjà. Première chose, il n'y a en revanche aucun texte francophone.
Oui.
Tous les textes sont anglophones. C'est-à-dire que dans les colonies françaises, il n'y a pas de texte. Pas de texte ou autobiographique, c'est-à-dire ou autographe. Je vais faire la différence qui n'est pas négligeable. Autobiographique, c'est par exemple Mary Prince. Et je pense à Mary Prince, qui est une esclave antillaise dans une île anglophone, qui se retrouve en Angleterre. Je fais référence à elle aussi parce qu'elle a écrit un texte magnifique qui a été publié en français. Et pour l'instant, il y a un spectacle de Souria Bonali au Théâtre des Abbesses, je crois. Enfin,
Manufacture
des Abbesses. Et Souria, oui, excusez-moi, j'ai dit Souria. J'ai fait un lapsus. Elle ne fait absolument pas de patin à glace. Oui, oui, excusez-moi pour le lapsus. Toujours est-il que c'est un très, très beau spectacle. Et elle joue magnifiquement ce texte très difficile. Cette dame, cette Mary Prince, va se retrouver en Angleterre dans les années qui précèdent l'abolition, et pour le procès qu'elle fait, elle veut en fait obtenir de son maître son émancipation. Et pour le procès qu'elle fait, elle va raconter sa vie à la femme ou à l'ami d'un avocat. Donc voilà, on est dans une logique de défense. Alors, les textes, je n'en reviens pas sur ce qu'a dit Catherine, nous avons deux, pour simplifier, les textes de ceux qui ont été déportés. Le plus célèbre du côté anglo-saxon, qui est devenu d'ailleurs un classique pour les Britanniques, c'est le texte de Dolada Acuiano, qui raconte sa déportation. C'est un jeune enfant, il a 13-14 ans quand il est déporté, c'est un nibo, enfin, il est très très précis. Il y a d'autres textes, mais ça reste quand même, parmi les 12 à 13 millions de déportés africains, ce sont des textes effectivement exceptionnels à tous les sens du terme, exceptionnels par leur qualité, et puis qui supposent que celui qui a pu avoir accès à l'écriture, là, c'est autographe. Dans le cas de Mary Prince, elle est illettrée, donc elle dicte, et c'est quelqu'un qui, une abolitionniste qui écrit. Dans le cas de Olaouda, comme dans le cas de Frederick Douglass, mais c'est la génération d'après, Frédéric. Je l'appelle Frédéric parce que c'est à force de le fréquenter. Non, mais je reviendrai à cette question-là du point de vue pédagogique, notamment sur Olaouda. Olaouda, comme Frédéric Douglass, eux, ce sont des textes autographes et qui plus est, des textes d'une très, très grande qualité littéraire. Dans la construction du récit, c'est quelque chose de très, très élaboré. J'aime beaucoup Olaouda. Alors, je les appelle l'un et l'autre par leur prénom, par une familiarité excessive, mais c'est parce que, en tant que prof d'histoire, je me suis aussi posé une question qui est celle de cet effroi face à ces nombres monstrueux, 12 à 13 millions. Déjà, je dirais, l'horreur est déjà dans le 12 à 13 millions, dans le 1 million près. Je dirais, cette simple approximation exprime déjà l'horreur de ce crime de masse. Parmi les 12 à 13 millions, on a peu, mais quand je dis à des élèves, y compris je travaille avec des élèves de l'école élémentaire, je leur donne ce nombre, et je leur explique rapidement comment les historiens sont arrivés à ce travail, cette estimation du nombre de déportés. Mais à un moment, j'ai besoin, moi en tant qu'adulte, et je crois au moins autant qu'enfant, j'ai besoin d'incarner. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis Olaouda. En plus, Olaouda, nous avons son portrait. Donc je présente Olaouda, et parce que je me reconnais plus, je me reconnais dans l'humanité de Olaouda, en sympathie avec lui. Il ne faut pas que la sympathie... Enfin, tu m'entends, hein. Je me reconnais dans l'humanité de Olaouda. Je ne peux pas me reconnaître dans l'inhumanité de 13 millions. C'est de l'ordre de... Alors, je suis prof d'histoire, hein. Vous entendez bien ce que je dis, je ne suis pas en train de... il faut donner ça, cette information sur les nombres, et en même temps, je pense que pédagogiquement, au sens large, il est important qu'on puisse avoir l'image de cet homme dans lequel, ou de cette femme, parce que je peux me reconnaître dans leur humanité commune, dans leur humanité partagée, notamment le fait qu'ils aient un portrait. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que fait Olaouda, c'est que le titre de son livre, c'est, alors je ne vais pas vous le dire en anglais, déjà par respect pour la langue, c'est le récit intéressant d'Olaouda Acuiano ou Gustave Vaza. C'est-à-dire qu'il, dès le titre de son livre, il donne ces deux noms. Son nom, le nom que l'ont donné ses parents, il est né en Afrique, c'est un nibo. Et il donne aussi le nom qu'avec probablement beaucoup d'humour, son maître qui était un marin lui a donné, ce nom qu'on impose esclave, qui est Gustave Vaza, et qui fait référence à un roi de Suède. Je pense que son maître avait un sens de l'humour absolument décapant. Ça, j'interprète. Mais c'est important pour ça aussi, d'un point de vue pédagogique, ça fait aussi partie de cette histoire de l'esclave, et je dis bien là de l'esclave, en l'occurrence d'Olaouda, mais de millions d'autres esclaves, c'est que quand ils quittent l'Afrique, leur identité, notamment ce qui est structurant, ce qui est la première identité, le prénom et le prénom donné par les parents et le nom qu'on hérite de ses parents, leur est dénié. Et ça, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de récits ou de travaux littéraires qui ont été faits. Le plus célèbre étant Roots, Racine, où il y a toute cette bataille, cette première forme de résistance de l'esclave qui veut garder son nom, ou y compris qui garde son nom. Il y a le nom que lui ont donné les maîtres et les blancs, et puis il y a le nom qui est le nom qui est le vrai nom. Et je trouve ça très intéressant que justement Olaouda ait dès son titre assumé, je dirais, son histoire, c'est-à-dire à la fois Olaouda l'Africain. D'ailleurs, il le dit, l'Africain, et Gustave Vaza, celui qui a été esclave et qui est devenu un homme libre.
Alors, l'autre récit d'esclave mythique, c'est Frédéric Douglass. Oui. On va entendre dans un instant un extrait de Frédéric Douglass. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur cette sur cet homme qui est né en 1818 dans le Maryland, je crois, et qui est devenu, je crois, malgré lui, candidat à la présidence des États-Unis.
En tout cas, il est mort ambassadeur, à la fin de sa vie, il était ambassadeur des États-Unis en Haïti.
En Haïti.
Hein, c'est un personnage très important. Alors, lui, il appartient à la deuxième, ce qu'évoquait tout à l'heure Catherine, pour les récits d'esclaves, donc première génération jusqu'au 18e, c'est-à-dire les récits où il y a récits de la déportation, nombreux mais exceptionnels, mais pas si nombreux que ça quand même, et les récits plus nombreux, alors produits dans les colonies britanniques et surtout dans les États-Unis indépendants au 19e siècle, ces récits, plus d'une centaine, et ces récits, en fait, sont aussi sollicités et suscités par le mouvement abolitionniste. Et notamment, ils sont écrits par des gens qui ont fui au Nord, qui sont réfugiés au Nord, et qui racontent, et qui sont, alors c'est important parce qu'ils sont aussi publiés. Parce que c'est pas le tout d'écrire. On peut écrire, mais, enfin déjà, encore faut-il savoir. Je suis malin, mais déjà, il faut savoir. Il faut avoir le temps. Il faut se cacher. Vous avez probablement vu ce magnifique film de autre récit, Solomon Northup, qui est un texte magnifique qui a été mis en scène par Steve McQueen. Le film est sorti l'année dernière. Ça, c'est la même génération. Là, ce sont des hommes nés aux Amériques. Northup, lui, naît libre, mais bon, il est enlevé. Frederick Douglass, lui, naît esclave, mais il est déjà états-unien, il est déjà américain. Et il va se sauver, à tous les sens du terme, et il va devenir un militant abolitionniste. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on a eu tendance à oublier, mais c'est lié à notre histoire nationale. C'est pas parce qu'on est méchant ou gentil. Les grandes figures, et ce sont des grandes figures, hein, je ne suis pas dans le deuxième degré de l'abolitionnisme européen ou français, Schœlcher, Condorcet, l'abbé Grégoire, Schœlcher, ce sont des très grandes figures, mais là encore, ce sont des Européens. Des Européens qui ont mené un combat tout à fait valeureux et digne de respect. Mais on oublie, à cause de cette histoire française, on oublie aussi l'importance de la participation d'anciens esclaves, Frederick Douglass étant une figure emblématique, Oulada Okuyanu aussi, avec le mouvement abolitionniste anglais, Mary Prince aussi. Ce sont des gens qui font des meetings aussi. C'est-à-dire qu'ils sont, là encore, anciens esclaves devenus libres, qui ont accès à l'écriture, qui sont publiés par le mouvement abolitionniste, et qui vont tourner, qui vont faire des meetings. Donc ce sont des militants. À ce propos, d'ailleurs, un livre que je déteste, mais bon, je n'ai pas lu le livre, je me suis contenté de subir le film, mais bon, Kirk Douglas a de magnifiques moustaches. C'est Autant n'emporte le vent. Cet ouvrage raciste, il faut appeler un chat quand même.
Clark Gable.
Excusez-moi, j'avais un problème avec les prénoms entre Souria Bonali et Clark Gable. Et c'est vrai, il est beau gosse, hein. Mais c'est peut-être parce que... Le livre.
À l'époque aussi. Hein,
oui.
À l'époque où c'était l'idée générale de l'ensemble des Occidentaux.
Mais le livre dont est tiré le film est un livre qui est une réponse dans le contexte. Il y a toute une production des sudistes dans la bataille esclavagiste contre anti-esclavagiste. Il y a toute une bataille, y compris littéraire. Il y a la case de l'oncle Tom d'un côté et il y a des ouvrages du type de celui que je viens d'évoquer, qui a été mis en scène. Où justement on voit bien qu'il y a une bataille, parce que ça aussi c'est un problème, c'est que notamment dans les... Souvent on n'aborde que les abolitionnistes, on ne parle que d'eux, on a raison, mais la bataille qu'ils mènent, ils ne sont pas tout seuls, il y a une bataille idéologique, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se battre, avec différents moyens, avec la littérature, avec les procès, avec le témoignage, et justement le témoignage d'esclaves, ou déportés, ou nés en esclavage, est un moyen pour les abolitionnistes, je dirais, quelle que soit leur mélanine, de gagner cette bataille idéologique, cette bataille morale, cette bataille économique. Et ça, là aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à évacuer par rapport à la représentation et par rapport à notre histoire nationale. On a tendance à oublier ou à évacuer la participation importante, en tout cas dans le mouvement abolitionniste américain et anglais, d'anciens esclaves au service de leur propre cause.
Alors, ce qu'on a aussi tendance à oublier... Que
après,
c'est
on
que dans.
Lecture,
oui, dans ces. Je vais être très rapide, mais ça me paraît important. Ce sont les femmes esclaves. Il y avait à peu près, pour l'Atlantique, dit globalement, un tiers de femmes et deux tiers d'hommes. Mais c'est global, hein, ça a varié suivant les périodes. Mais il y a des jeunes femmes esclaves qui ont aussi raconté, qui ont aussi été éduquées. Alors tu parlais de Mary Prince. Mais il y en a une autre qui n'est pas connue du tout en France, bien que le livre ait été traduit, et qui a été absolument extraordinaire, qui s'appelle Harriet Harriet, et qui était donc esclave dans le sud, j'ai un peu oublié dans quel état, dans les années 1840, par tous les mélanges qu'il y avait à cette époque. Sa grand-mère n'était pas esclave. Elle avait une grand-mère qui n'était pas esclave, mais sa mère était esclave et elle était esclave. Elle est chez un maître abominable qui, évidemment, dès qu'elle a 14 ans, veut coucher avec elle. Et elle a des formes de lutte tout à fait extraordinaires. Elle commence d'abord par coucher avec un ami du maître et faire deux enfants métis, justement pour ne pas les faire avec le maître. Finalement, comme il devient beaucoup trop encombrant, ce maître, elle décide de fuir et de se cacher. Elle n'arrive pas à fuir parce que c'est extrêmement difficile, ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain, c'est-à-dire le passage du sud au nord, c'est extrêmement difficile. Pendant, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, si ce n'est 7, elle vit dans un petit grenier, dans le grenier de sa grand-mère, de la maison de sa grand-mère, qui élève ses deux enfants. Et pendant 6 ans, elle ne les voit pas.
Elle les entend.
Elle les entend, mais elle ne les voit pas. Et c'est au bout de 6 ans qu'elle arrive finalement, par toute une série... Enfin, c'est plus fascinant que la case de l'oncle Tom. Et alors, ça a été... finalement, elle arrive dans le Nord, mais il y a une loi qui dit que les esclaves fugitifs doivent être poursuivis dans le Nord, donc elle est poursuivie. Elle ne veut pas... elle veut racheter sa liberté elle-même. Mmh. Finalement, elle n'y arrive pas. C'est une bienfaitrice qui va payer pour elle parce qu'elle n'en s'en sort pas. Le fils du maître continue à être pareil que son père et à la poursuivre. Et elle va devenir une militante anti-abolitionniste extrêmement importante dans la deuxième moitié du siècle. Et on a beaucoup douté de son récit parce qu'il est tellement extravagant que, évidemment, tous les anti-abolitionnistes ont dit tout ça c'est de la frime. C'est absolument authentique.
Et le titre de... Là, je vous le donne, c'est, Harriet Jacobs, c'est oui. L'intérêt de l'écrit.
Oui.
Incident dans la vie d'une jeune esclave, et ça a été publié chez l'éditeur Viviane Ami ou l'éditrice Viviane Ami en 2008.
Oui.
Donc, Incident dans la vie d'une jeune esclave de Harriet A. Jacobs. Son prénom c'est Harriet et Jacobs c'est son nom.
Mesdemoiselles, on va vous donner la parole pour une première lecture. Donc, c'est Kéliane Midaniez et Claire Yannan qui viennent du collège Jean Lursa à Sarcelles. Ils étaient dans l'option théâtre avec Rosemarie Doros qui est ici. Elles nous ont préparé donc une première lecture. Vous entendrez des extraits du Code Noir et des extraits de l'autobiographie de Frédéric Douglas. Je vous en prie.
Code Noir, article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront au maître des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont de maîtres différents.
Je suis née à Turcao, dans le comté de Talbot, au Maryland. Je ne pourrais dire avec précision l'âge que j'ai, n'ayant jamais eu entre les mains de documents officiels attestant de ma naissance. La plupart des esclaves en savent autant sur leur âge que les chevaux sur le leur. Et à ma connaissance, c'est le souhait des maîtres qu'il en soit ainsi. Les enfants blancs, eux, connaissaient leur âge. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais en dire autant. J'estime avoir aujourd'hui entre 27 et 28 ans. J'arrive à ce résultat pour avoir entendu mon maître dire, au cours de l'année 1835, que j'avais alors environ 17 ans. Ma mère s'appelait Harriet Bailey. Mon père était un homme blanc. C'était un fait admis par tous ceux qui en parlaient. La rumeur disait que mon maître était mon père, mais j'ignore si cela est vrai. Ma mère et moi avons été séparés alors que je n'étais encore qu'un bébé, bien avant même que je sois conscient que c'était ma mère. C'est en effet une pratique courante d'éloigner très tôt les mères de leurs enfants. Le maître était un homme cruel, rendu encore plus dur par toute une vie passée à posséder des esclaves. Il lui arrivait parfois de prendre un grand plaisir à fouetter un esclave. J'ai souvent été réveillée, dès l'aube, par les plus déchirants hurlements de douleur poussés par une de mes tantes, qu'il avait coutume d'attacher à une poutre afin de fouetter son dos nu jusqu'à ce qu'il soit littéralement couvert de sang. Aucun mot, aucune larme, aucune prière de sa victime ensanglantée ne réussissait à émouvoir son cœur de pierre et à mettre un terme au supplice.
Mary Prince, esclave dans les Antilles britanniques et qui fut la première femme à publier le récit de sa vie en 1831, remercier sa maîtresse pour tout ce qu'elle lui a enseigné. Elle ajoute ironiquement, « Elle m'a appris beaucoup plus de choses encore. Comment les oublier jamais ?» Grâce à elle, je connais la différence exacte entre la brûlure d'une corde, d'une cravache ou d'une lanière de cuir appliquée de sa main cruelle sur mon corps. Deux jours avant l'embarquement, toutes les têtes, masculines et féminines, sont soigneusement rasées. Et si la cargaison appartient à plusieurs propriétaires, la marque distinctive de chacun d'eux est imprimée au fer chaud sur le corps de ces nègres. Cette opération se fait à l'aide de fils d'argent ou de très petits fers façonnés, de façon à reproduire les initiales du négociant que l'on chauffe juste assez pour griller légèrement la peau sans la brûler tout à fait. Quand une cargaison est tout entière, la propriété d'un seul spéculateur, la marque, n'est jamais apposée. À la chute du jour, on procède à l'arrimage des esclaves pour la nuit. Le premier officier et le quartier maître descendent dans la cale, le fouet à la main, et mettent chaque esclave à la place qu'il doit occuper. La stricte discipline qui préside chaque soir à cet arrimage est d'abord des négriers de la plus grande importance. Si elle faisait défaut, chaque nègre s'installerait comme s'il était un passager. Théodore Cano, Confession d'un négrier.
Merci, mesdemoiselles. Fini, donc on va vous retrouver après votre lecture. La partie sur Mary Prince, je crois que ce sont les documents qui accompagnent le récit, l'autobiographie de Frédéric Douglas, dans le petit volume que vous trouverez à la sortie, c'est édité chez Gallimard. On a beaucoup parlé, on pourrait en parler encore beaucoup, des récits d'esclaves, tellement c'est passionnant, poignant, vous avez dit la difficulté de trouver ses sources. Une question toute simple, est-ce qu'il y a un site ou est-ce qu'il y a une source de référence qui collecte et qui signale tous ces récits d'esclaves?
Oui, c'est un site que connaissent d'ailleurs les collègues qui ont utilisé le livre de Frédéric Douglas, c'est Hélène Tronc, c'est ça, qui a fait chez Gallimard. Il y a un petit livre jaune chez Gallimard qui édite le texte de Frédéric Douglas avec un commentaire fort bien fait. Et c'est une prof d'anglais, je crois, en tout cas une linguiste, s'appelle Hélène Tron, et elle a un site qui doit s'appeler Voix d'esclaves.
Catherine l'a trouvé.
Oui, non, mais il y a le site des ressources pédagogiques pour enseigner les traites. Et puis alors, je dois dire aussi que, outre les sites, ce que l'on trouve sur Internet, c'est beaucoup de récits. Beaucoup de récits d'esclaves en anglais ou en traduction, parce que le travail a été fait par les chercheurs, en particulier les chercheurs outre-Atlantique, et tous ces récits d'esclaves en entier sont consultables gratuitement, et on en trouve énormément.
J'ai retrouvé le site, oui, hein, oui. C'est esclaves en un seul mot au pluriel en amérique.org. Et c'est, en fait, il y a une, oui, ça de mémoire, il y a une quinzaine, mais pour parler en vieux français, c'est un work in progress, c'est-à-dire qu'elle continue à traduire des récits. On peut les avoir, quand on est sur le site, il y a la liste des auteurs, dont Douglas, mais d'autres, Northup aussi, et on a aussi des entrées par thème, par exemple la fuite, la violence, l'enfance. C'est un site très très bien fait qui est fait par cette dame qui s'appelle Hélène Tron et qui a aussi édité donc une édition critique du texte de Frédéric Douglas. Le site que j'évoquais tout à l'heure, qui est très intéressant aussi, le site sur le marronnage, j'ai évoqué tout à l'heure,
oui,
ça s'appelle Marronnage Info. Marronnage Info. Mais là, c'est plus ingrat, parce que là, c'est la mise en ligne de ces milliers d'annonces faites que j'évoquais tout à l'heure dans les affiches américaines.
Donc vraiment site Esclaves en Amérique.
Non, alors c'est ce que je disais, c'est oui. Ça. Le site Esclaves en Amérique, là vous trouverez un bon nombre de textes qui n'ont pas encore été publiés. Alors on a fait le travail avec Catherine, on a mis dans notre bibliographie, alors elle va bouger, on peut l'espérer, mais en tout cas on a mis tous les sites, tous les ouvrages de récits d'esclaves qui sont traduits en français. Il y en a une quinzaine.
Mais le laboratoire CNRS dirigé par Myriam Cotias, qui est un laboratoire international, est en train de décider de rechercher et de prévoir la publication de textes en français. Ça n'est pas encore fait parce que le travail est en retard, puisque ça n'a commencé qu'au début de ce siècle, mais ça n'est pas parce qu'il n'y a aucun texte en français qu'ils n'ont pas existé. mais ils n'ont pas été cherchés, ils n'ont pas été publiés, et puis il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors l'explication, pour toujours expliquer les facteurs explicatifs, je crois que Eric en a donné un très important, surtout au XIXe siècle, mais ça a commencé dès le XVIIIe siècle pré-américain. Dans la colonie anglaise, vous aviez des Britanniques, enfin des colons entiers, il n'y en avait pas beaucoup, mais des colons entiers esclavagistes qui ont beaucoup aidé les premiers départs, parce que dès le XVIIIe siècle, vous avez des esclaves arrivés en Amérique qui sont repartis en Afrique. Il y a des histoires tout à fait extraordinaires. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais on trouve effectivement beaucoup de choses.
Il y a une hypothèse qui ne me paraît pas totalement idiote, c'est que les Anglo-Saxons ont un rapport à l'écrit qui est différent des catholiques. Et ça les travaille d'ailleurs. On le voit y compris sur la question religieuse, qui est une question importante. Ça aussi, c'est compliqué parce que je connais la citation qu'on utilise fréquemment d'un philosophe allemand selon lequel la religion est l'opium du peuple, mais n'oublions pas que l'opium, ça aide aussi à se soigner et à subir la violence. L'opium, c'est compliqué. Ça endort, mais ça permet aussi de vivre malgré, ou ça aide à vivre malgré l'oppression, malgré la violence. La religion peut avoir aussi un rôle, et en tout cas dans le monde anglo-saxon, et surtout dans le monde états-unien, où il y a beaucoup de minoritaires, de gens qui sont justement qui ont quitté l'Angleterre, parce que notamment le plus célèbre mouvement qui va prendre la tête de l'anti-abolitionnisme, c'est le mouvement Quaker. Et ils sont travaillés par cette contradiction, parce qu'ils ont un problème qui est un problème majeur, c'est qu'ils vont baptiser les esclaves. Alors, les catholiques les baptisent assez facilement. Le catholique, excusez-moi, je vais un peu vite et je suis un peu mécréant, mais le catholique baptise à la louche, enfin, ça va.
Collectivement.
Pour les protestants, et notamment pour ces groupes de protestants très type Quaker, on ne donne pas le baptême comme ça. Mais en même temps, on veut les baptiser, puisqu'il faut les sauver, c'est aussi l'argument, oui. Or, je fais juste remarquer une chose, c'est que, y compris quand on fait des références, je ne vais pas trop développer sur la question du code noir, mais qui prévoit d'ailleurs
l'article 1 du Code noir dit que tous les esclaves doivent être chrétiens.
Oui. Et catholiques. Si, ça, c'est quelque chose que certains, un collègue haïtien, Laennec Urbon, a travaillé cette question-là, notamment dans son très beau livre qu'il a fait chez Gallimard, Découverte sur le vaudou. Si les maîtres baptisent les esclaves, c'est bien qu'ils leur reconnaissent une humanité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas dégrader cette humanité. On ne baptise pas une chaise, on ne baptise pas un animal. Et il va y avoir d'ailleurs, ça on le sait par Saint-Domingue et par des travaux qui ont été faits sur Saint-Domingue, Haïti, le mouvement religieux des confréries au Brésil, d'autres formes, ou tout ce qui va donner aux États-Unis cette très grande richesse du mouvement religieux noir américain, c'est aussi pour les esclaves, une façon d'affirmer leur humanité. Oui, donc, vous voyez, c'est ambigu. C'est à la fois, on a des récits où le maître utilise, on le voit chez Solomon Northup, va utiliser le pasteur ou le religieux pour terrifier. C'était pas obéissant, tu vois. Certains esclaves, ils disent, ouais, on verra bien, mais enfin, pour l'instant, c'est pas non plus tout à fait ça. Enfin, je me mets à leur place un peu rapidement. On peut utiliser la religion comme un moyen, évidemment, d'abrutissement et de pour terroriser encore plus, hein, une forme de domination. Mais la religion, telle qu'elle est vécue et intériorisée, et c'est très compliqué parce qu'il y a toutes sortes de syncrétismes qui sont en jeu, par les esclaves et par ceux qui sont en situation d'esclavage, peut être aussi une forme d'affirmation de leur humanité, une forme d'émancipation. Constamment, y compris, je pense, à « Let my people go », c'est des références bibliques. Alors ça, c'est des références qu'ont les esclaves du monde anglo-saxon, parce que leur maître ou eux-mêmes deviennent lecteurs de la Bible. D'ailleurs, Olaudah Equiano pose, quand il pose sur son portrait, il a les Actes des Apôtres à la main. Donc il y a bien une lecture, et il y a constamment chez des esclaves américains, états-uniens, des références à la Bible, qu'on ne trouve pas chez les esclaves du monde catholique, parce que les catholiques ne sont pas des lecteurs de la Bible.
Oui, il n'empêche que dans les îles, dans les Antilles anglophones ou de toute autre langue, il y a très peu de récits, et on peut aussi l'attribuer justement au milieu insulaire qui est beaucoup plus fermé, beaucoup plus renfermé, avec un pourcentage du nombre d'esclaves très élevé par rapport au nombre de maîtres, avec une crainte permanente des maîtres, une peur fondamentale des maîtres depuis 1804, qui est la République d'Haïti, qui est le premier État noir moderne, la première République noire moderne existante au monde, et qui est la seule au milieu de toutes les autres îles, qui sont des îles de canne à sucre et totalement esclavagistes. Et par conséquent, la terreur menée à l'intérieur de ces îles par un petit groupe de planteurs extrêmement violents, souvent, et en tous les cas, qui veulent tenir leurs esclaves par la terreur, n'a aucun exutoire possible. Tandis que, surtout au XIXe siècle, aux États-Unis, évidemment, il y a tous les États du Nord qui... et tous les apports et toutes les possibilités de fuite très difficiles, mais qui ont quand même qui se sont multipliées à partir du tardivement, puisque la suppression de l'esclavage est décidée en 1863 et que ça commence à devenir un peu moins difficile dans les années 1840-1850. Mais n'empêche que vous avez là quelque chose qui peut expliquer cette dissymétrie qui est effectivement très frappante, mais j'ai retrouvé l'idée que je voulais développer tout à l'heure, j'avais perdu en route. Le laboratoire est en train, et en particulier autour de l'équipe de la Martinique, de recueillir tout ce qu'ils peuvent recueillir pour essayer de trouver précisément des retranscriptions, des archives, des souvenirs, des reconstitutions, d'après tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure avec les sources, pour connaître la vie des esclaves et non plus seulement l'histoire de l'esclavage.
Alors, votre livre n'est pas que sur les sources et pas que sur les récits d'esclaves, en particulier ce projet que vous annoncez dès le début. L'hypothèse avancée est que la traite négrière internationale s'est développée d'abord parce que l'esclavage était déjà très répandu dans la région d'Afrique. Votre livre essaye de passer en revue, disons, l'esclavage avant la traite, avant le triangle, avant le commerce triangulaire et après, puisque vous évoquez après, évidemment, la suppression de la traite, les persistances de l'esclavage dans plusieurs régions. Est-ce que c'est ça l'innovation principale, d'après vous, sur laquelle vous avez souhaité travailler ?
Alors, je vais peut-être répondre là-dessus. C'était, je dirais, une motivation, peut-être davantage pour moi que pour Eric, qui avait aussi des motivations que nous partagions. Mais là, la motivation de montrer, comme je le disais au démarrage, que les esclaves n'étaient pas tombés du ciel sur la côte.
Ils
étaient déjà dans un système. Alors, dans des formes d'esclavage, dans des formes de système extrêmement variées, mais je pense, enfin c'est une hypothèse banale, que toutes les sociétés anciennes, sans aucun développement technologique, ont peu ou prou connu l'esclavage, et que ça serait bien le diable si seulement dans les sociétés africaines il n'y avait pas eu d'esclavage, il y en a eu partout, y compris en Égypte, malgré les hypothèses merveilleuses qui expliquent que non, c'était tous des travailleurs volontaires qui faisaient la corvée pour construire les pyramides. Moi j'avoue que J'ai des doutes, parce qu'il y a tellement d'idées reçues comme ça chez les historiens, les meilleurs, dont on s'aperçoit que finalement c'est un héritage peut-être à déconstruire un petit peu. Mais donc il y avait dans les sociétés africaines, il y avait esclavage. Alors la question c'était de savoir comment avait évolué cet esclavage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop gros. Alors on a beaucoup dit aussi qu'il y avait l'esclavage domestique et puis l'esclavage de traite. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'on peut très bien répondre que l'esclavage domestique, il existait aussi parfaitement chez les planteurs. Évidemment, il y avait une très forte domesticité, et que tous les maîtres et toutes les maîtresses n'étaient pas en train de fouetter tous leurs esclaves, qu'il y avait toutes les variantes possibles et imaginables. Et bien, dans les sociétés africaines, ce n'était pas la même chose, mais il y avait aussi toutes les variantes possibles et imaginables. Et puis, par les récits qu'on a, et ça c'est très important, ces premiers récits de la première génération dont je parlais tout à l'heure, ben on s'aperçoit qu'un certain nombre d'esclaves, en fait, ben ils ont été pris comme esclaves, Ils ont été pris par des brigands. Et puis ils ont fait un, mais ils arrivent des environs du lac Tchad. Et puis au 19e siècle, vous avez l'histoire d'une vieille femme, elle était jeune femme au début de cette histoire, il y en a plusieurs, qui a trouvé refuge dans une mission protestante. Il y en a une dizaine dont on a les récits, qui ont été esclaves au 19e siècle. Et il y en a une qui raconte que même un fois, elle avait été dans une caravane d'esclaves. Elle était probablement très intelligente, très belle et très pleine d'initiative. Donc c'était une femme d'une personnalité exceptionnelle, manifestement. Mais elle est analphabète, elle a raconté ça aux missionnaires pour pouvoir devenir protestante dans son vieil âge. Elle s'est trouvée dans une caravane qui l'emmenait vers l'Atlantique. Elle s'est débrouillée, tout ça est raconté. Elle s'est échappée et puis une dizaine d'années, elle s'est trouvée dans une caravane qui l'emmenait vers l'océan Indien. Elle était originaire à peu près du centre de l'Afrique. Ça veut dire que ces pistes, au XIXe siècle, traversaient l'ensemble du continent dans tous les côtés et qu'elles étaient très importantes. Et nous sommes arrivés justement, en comparant les mouvements, à cette constatation tout à fait extraordinaire et apparemment paradoxale. Plus les Occidentaux luttaient contre la traite atlantique, plus l'esclavage se développait dans les sociétés africaines, si bien que l'esclavage est devenu, le mode de production esclavagiste, c'est-à-dire l'utilisation des esclaves, qui ne se vendaient de moins en moins à l'extérieur. Ben les réseaux n'ont pas disparu du jour au lendemain, parce que tout d'un coup, la Grande-Bretagne a dit en 1807, j'arrête les bateaux. Tous les réseaux existaient et les chefs africains n'ont pas été prévenus. Donc tous les réseaux ont continué à fonctionner, il y a eu énormément d'esclaves, de plus en plus, parce qu'au XVIIIe siècle, c'était la demande absolument massive du côté occidental. Ces esclaves, qu'est-ce qu'on en fait? Là aussi, je caricature. On en fait des soldats. Donc, il y a eu des empires de conquête extraordinaires à travers toute l'Afrique précoloniale au XIXe siècle. Et puis, on les met au travail. On les met au travail pourquoi? Pour produire la matière première dont la révolution industrielle européenne a besoin, exactement comme les États-Unis, qui ont utilisé l'esclavage au sud des États-Unis pour produire le coton pour l'industrie textile britannique ou de l'Amérique du Nord. Eh bien, l'huile de palme, l'huile d'arachide, les bois de teinture, il n'y avait pas d'industrie chimique, donc cette industrie textile, il fallait l'éteindre, et l'éteindre, on l'éteignait avec l'indigo, avec la noix de cola, etc. Donc tous ces produits, ils venaient d'Afrique. Eh bien, tout ceci, ça a été produit par les esclaves dans les sociétés africaines, devenus au XIXe siècle beaucoup plus esclavagistes qu'avant. Il y avait probablement à la fin du XIXe siècle, alors on peut évidemment dire n'importe quel chiffre parce qu'on ne sait pas, mais 10 fois plus d'esclaves qu'il y en avait au début du siècle. Et ce qui a permis aux premiers colonisateurs de dire nous allons délivrer l'Afrique de l'esclavage en la colonisant. Et d'estimer d'ailleurs, on a les estimations dans les sociétés que les premiers administrateurs essayent d'examiner avec un œil attentif, entre la moitié, parfois les deux tiers, des sociétés auxquelles ils sont affaires sont plus ou moins esclaves. Donc ça, c'est pas un phénomène qui existait au XVe siècle, c'est un phénomène du XIXe. Et c'est donc ce que nous voulions étudier tous les deux, précisément, c'est les transformations à la fois économiques et culturelles énormes qui se sont passées à travers l'Atlantique. Parce que ceux qui ont traversé l'Atlantique, bon, il y avait un certain nombre de bateaux, il y avait un certain nombre de blancs, ben, il y avait surtout des esclaves. C'est eux qui ont traversé l'Atlantique. Alors, ils n'ont pas traversé l'Atlantique sans laisser de traces. Ils ont construit l'Atlantique aussi, et en particulier, ils ont transformé leur culture. Eric parlait du vaudou tout à l'heure. Il y a toute une série de types de religions qui portent des noms différents en Afrique, pour donner les noms des pays actuels, au Bénin, au Nigeria, etc., au Congo, dans les Congos, qui avaient leurs caractéristiques, mais qui avaient certains traits communs, et tout ça a donné une espèce de syncrétisme pour les esclaves qui venaient un peu partout et qui se retrouvaient sur les plantations pour construire un vaudou, en particulier le vaudou brésilien, qui est reparti ensuite en Afrique. Et tout ceci s'est construit à travers les siècles. Et alors c'est tout à fait passionnant de comprendre que tous ceux qui ont construit ça, ce n'est pas les négriers, c'est les esclaves.
Éric Ménard, est-ce que vous vous sembliez être en désaccord avec ce...
Ah non, pas du tout, non, parce que justement, ce à quoi je réagissais, c'est ce que je voulais surligner en fait dans le propos de Catherine, c'est la grande modernité de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a aussi du mal à comprendre, parce que nous parlons de l'esclavage colonial. Il y a d'autres formes d'esclavage, on va pas. Je pense notamment à l'esclavage antique. Mais ce qui est assez intéressant à constater, c'est la capacité qu'a le développement du capitalisme au XIXe siècle à cohabiter avec une autre forme d'exploitation, via l'exploitation salariale, qui n'était pas nécessairement très rose quand on lit les textes de 1830 et la nuit des prolétaires. Hein. C'est pas non plus. D'ailleurs, c'est parfois un argument, ça va être un argument des anti-abolitionnistes américains, états-uniens, qui consiste à dire, nous, c'est l'argumentaire paternaliste. Nous, nos vieux nègres, ils n'en avaient pas tant que ça hein, quand on regarde les pyramides des âges. Quoique, c'est un peu plus compliqué aux États-Unis. Nous, nos vieux nègres, on ne va pas les laisser à l'abandon. On va les protéger. J'ai même entendu ça récemment d'un descendant de colons réunionnais. Il disait à la Réunion, ça c'est le discours constant. Chez soi, l'esclavage est toujours plus doux. Par exemple, on trouve ça chez là-bas. Là-bas, il dit, les pires esclavagistes, là-bas est un dominicain français début 18e, les pires esclavagistes, c'est les Hollandais. En plus, ils sont protestants, alors on peut comprendre qu'ils ne doivent pas être sympas. Mais ça, il y a toujours cette idée que son esclavage à soi, si j'ose dire, est un esclavage cool, quoi, un esclavage en tout cas moins brutal que l'esclavage d'ailleurs. Au XIXe siècle, et d'ailleurs c'est l'erreur qu'ont fait les abolitionnistes, mais ça on ne peut pas le reprocher, c'est l'erreur qu'ont fait les abolitionnistes états-uniens, c'est qu'ils avaient prévu, comme les abolitionnistes anglais, comme Condorcet, que si on abolissait la traite, si on reprend l'agenda 1785 des abolitionnistes européens, anglais, français et états-uniens, tous ces gens naviguent et parlent entre eux et se connaissent et échangent. Leur projet, c'est on abolit la traite. C'est ce que propose Condorcet de façon très systématique, à la Condorcet justement. On abolit la traite, et à partir du moment où on abolit la traite, les maîtres auront intérêt à moins maltraiter leurs esclaves. Et Condorcet imagine un système très sophistiqué, un système d'émancipation progressive par les maires, qui fait qu'au bout de 70 ans, l'esclavage aura disparu. Donc un système qui permet aussi de ne pas sortir brutalement de l'esclavage. Alors, problème évidemment en histoire, c'est que les esclaves saint-domingois n'ont pas lu Condorcet. Ça, c'est un de leurs grands défauts. Et ils n'ont pas respecté l'agenda des abolitionnistes européens, libéraux. Et ils vont, eux... Et d'ailleurs, la France non plus, puisque une des conséquences de la révolution saint-domingoise, qui commence en 1791, c'est l'abolition, non pas de la traite. La France est le premier État à abolir l'esclavage dans ses colonies, alors, de façon très inégale. Et rassurons-nous, un de nos grands hommes, Napoléon Bonaparte, l'a restauré. Mais Napoléon Bonaparte n'a même pas eu besoin de restaurer la traite, ce qui n'avait jamais été aboli, ce qui était logique, puisqu'on parle du principe sur abolir l'esclavage, il n'y a plus besoin de traite. Mais c'est ça qui est très intéressant, de mon point de vue, alors là, de prof d'histoire, c'est la grande modernité. Ça nous parle évidemment beaucoup d'aujourd'hui, parce que c'est à la fois un mouvement international. Et la bataille contre l'abolition devient tout de suite un mouvement international. Parce que l'argument des uns, c'est de dire, oui, nous les Anglais, si on abolit, oui, mais les autres vont le faire, et les autres le font plus salement que nous. Donc ça, c'est toujours l'argument. Je ne parlerai pas d'autres commerces. Non, vous savez, on a souvent tendance à juger rétrospectivement les autres. J'ai envie de dire, parfois aussi, balayons devant nos propres portes, même si individuellement, nous ne sommes pas responsables d'un certain nombre de choses. Mais en tout cas, donc esclavage, c'est très... la bataille abolitionniste, c'est une bataille très moderne, c'est une bataille internationale. C'est une bataille qui pose à la fois la question de la religion, de la morale, mais aussi la question de l'économie. Il faut avoir des arguments. Et d'ailleurs, la pensée libérale va se construire autour justement de l'argumentaire en faveur du salariat pour démontrer que le salariat est au bout du compte plus rentable et plus libéral. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un État qui visse comme pour la traite ou comme pour le maintien des salariés. Donc il y a tout un argumentaire très moderne, à tous les sens du terme. Et le paradoxe, c'est que je reviens aux États-Unis, ils se disent, on abolit ce qu'ils font, ils abolissent la traite. Ils étaient persuadés que progressivement, tout ça allait disparaître avec le temps, allait s'atténuer, allait finir par rentrer dans les poubelles de l'histoire. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la deuxième phase qui correspond globalement aux années 1810-1820, qui correspond au développement de l'industrie cotonnière dans les villes du Nord états-uniennes et en Angleterre, et où, avec le stock, excusez-moi pour les termes, avec le stock d'esclaves qui sont dans les colonies du Sud, dans les États du Sud, alors certains historiens américains débattent, parlent d'esclavage d'élevage. Mais en tout cas, on va voir aux États-Unis, c'est ça qui est particulier aux États-Unis.
Esclavage d'élevage.
Alors, je m'explique. Si on prend Saint-Domingue, c'est la grande usine à sucre et c'est le grand camp Et ça devient d'ailleurs, ça prend des formes très concentrationnaires, y compris dans l'habitat des nègres. Hein. Ce sont des grandes plantations, 300, 400, 500 esclaves. Plus de contact direct entre le maître et les esclaves. Ce sont des usines à sucre. Dans ce système-là, dès que le taux de mortalité des nègres, quand, il est clair hein, que quand je dis nègre, je parle d'esclaves noirs. Hein, je pense que c'est pas la peine. Je le précise toujours avec des élèves de, ben, parce que je sais que le mot nègre. Non. Donc, il y a les nègres, quoi. Enfin, j'arrête.
De Jean Genet, oui. Tout à l'heure, à 20h.
Quand, dès que, pendant la guerre de 7 ans, qui s'arrête en 1763, les colons guadeloupéens, martiniquais, saint-domingois hurlent à la mort. Ils n'ont plus leur cheptel qui arrive, parce que le taux de mortalité est tel que la traite doit constamment renouveler le cheptel humain. 5, 6, 7 ans d'espérance de vie pour un déporté. Alors, ce sont des calculs qui sont toujours très discutables, parce qu'on a toujours des exceptions. Mais globalement, on a, le taux de mortalité est tel que, de toute façon, si on ne renouvelle pas, on n'a plus de main-d'œuvre.
D'où l'importance aussi des affaires de traite pour les négriers. Hein. S'il faut renouveler le cheptel, hein, ben ça fait marcher les affaires.
Ce que font les États-Unis. Alors, les États-Unis, ce sont les propriétés, sauf quelques cas en Louisiane, où on a des grandes plantations sur le modèle saint-domingois, sous-tant que ce sont des saint-domingois qui ont quitté. Qui ont quitté au moment de la Révolution, qui sont venus pour certains s'installer et faire du sucre en Floride. Mais pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domingue, surtout, ce sont des très grandes exploitations, pour la plupart. 100, 200, jusqu'à 500 esclaves. Les États-Unis, le modèle, il y a là encore des contre-exemples, c'est plutôt 5, 6, c'est Douglas, ou c'est ce que raconte Salomon Northup, c'est 7-8 esclaves. 7-8 esclaves avec un petit propriétaire. Là, on incite, alors qu'aux Antilles, on fait en sorte que les esclaves ne se marient pas, parce que ça pose toutes sortes de problèmes, et on n'incite pas les femmes à avoir des enfants, y compris on importe, et c'est mal encore pour les termes, je ne suis pas responsable de cette barbarie, on importe plus d'hommes que de femmes, parce qu'on ne tient pas à... L'idée, c'est que si les femmes sont enceintes, pendant le temps de leur grossesse, ça va baisser la productivité. Après, il faut élever les petits. Le modèle états-unien, c'est différent. On a des petits propriétaires qui, eux, au contraire, vont inciter leurs esclaves à se marier, à avoir des enfants et avoir le plus d'enfants possible. Ce qui fait qu'on va avoir, alors que pendant toute la période 18e siècle, on a un maintien ou une croissance du nombre d'esclaves qui n'est explicable que par l'apport constant de la traite qui devient monstrueux en 1780-90.
D'autant qu'en 1807, la Grande-Bretagne a interdit la traite.
Aux États-Unis, la croissance va se faire, mais la croissance va se faire entre 1810 et 1860, elle va se faire sans pratiquement apport de traite. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a une stratégie différente des maîtres qui, au contraire, vont inciter leurs esclaves. C'est pour ça que certains, y compris certains, disent qu'il y avait même des haras. Tout ça est discuté par les historiens américains, mais en tout cas, quand on parle, et vous entendez que je mets autant de guillemets que vous en voulez à esclavage et élevage, c'est parce qu'on va là inciter les esclaves à se reproduire pour permettre de reproduire la main-d'œuvre. Et ça explique pourquoi on a des familles très nombreuses, avec la bénédiction à tous les sens du terme du maître, dans le modèle de la petite plantation états-unienne, alors qu'en fait, dans le modèle de la grande plantation saint-domingoise, il faut prendre des stéréotypes, enfin des cas un peu de part et d'autre, les femmes ont finalement, en tout cas, on n'incite pas les femmes à avoir des enfants, et il y a toujours cette... Alors ça, c'est ce qui revient constamment. C'est cette question de la séparation. Enfin, là, ça a été évoqué de façon tellement violente par la lecture.
D'autant quand même que même s'il n'y avait pas de période d'esclaves, il y avait quand même une vente, comme il y avait la conquête vers l'ouest. La conquête vers l'ouest, c'était la conquête du nord, des chemins de fer, un peu plus, etc. Mais c'était aussi la conquête de l'ouest pour la partie sud. Donc l'ouverture de nouvelles terres à coton, alors que les terres de l'est commençaient à souffrir de cette exploitation intensive.
La conquête de l'Ouest est faite par les
esclaves. Une grande partie des enfants nés à l'Est étaient vendus à l'Ouest, d'où la séparation des familles, bien sûr.
On reste aux États-Unis. Je vous propose, mesdemoiselles, les dernières lectures, donc Kéliani Dagnès et Claire Yannan du collège Jean Lursa de Sarcelles.
Dimanche 25 janvier courant, à 11h, sur la place publique du bourg de Port-Louis, il sera procédé à la vente, au comptant, au plus offrant et dernier enchérisseur, de, premièrement, une négresse nommée Clara, âgée de 24 ans. Deuxièmement, un cheval sous poil roux foncé, âgé de 10 ans. Troisièmement, divers meubles et effets mobiliers. Le premier objet qui s'offrit à ma vue quand j'atteignis la côte, ce fut la mer, ainsi qu'un bateau au mouillage qui attendait sa cargaison. Ce spectacle m'emplit d'un étonnement sans borne, qui se mua bientôt en terreur quand on me transporta à bord. Aussitôt, quelques hommes d'équipage me tournèrent et me retournèrent en tous sens pour voir si j'étais solide. Et j'acquis alors la certitude que j'avais pénétré dans un monde de démons et qu'ils allaient me tuer. Leur apparence, elle aussi, différait fort de la nôtre. Leurs cheveux et la langue qu'ils parlaient, sans point commun avec tout ce que j'avais entendu jusqu'ici, s'accordaient pour me renforcer dans cette idée. Et comme je jetais des regards autour de moi sur le bateau, je vis une grande fournaise, comme du cuivre en fusion, et une foule de gens de couleurs de toutes sortes, enchaînés les uns aux autres, exprimant jusqu'au dernier le désespoir et l'abattement, si bien que je ne doutais plus de mon destin, et terrassé par l'horreur et l'angoisse, je tombai inanimé sur le pont et perdis connaissance. Et l'on nous vendait comme des bêtes, et l'on nous comptait les dents, et l'on nous tâtait les bourses, et l'on examinait le kati ou décati de notre peau, et l'on nous palpait et pesait et sous-pesait, et l'on passait à notre cou de bête domptée le collier de la servitude et du sobriquet.
Code noir, article 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir que ne soit à leur maître.
Merci beaucoup. Une vingtaine de minutes, je vous propose de passer dès maintenant à vos questions. Vous avez ici deux ressources éminentes.
J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire Olada Ekuyano. Hein. Bravo. Remarque.
Avez-vous des questions? Monsieur, vous en priez.
Pourquoi, comment?
Alors, vous avez...
Oui, des retours d'esclaves des Amériques en Afrique, pourquoi, comment ça se faisait?
Alors, on en connaît dès le XVIe siècle, du côté de l'Amérique latine, du Brésil en particulier. Nous n'avons pas donné les chiffres, mais maintenant on arrive à la conviction qu'environ 45% des esclaves sont partis, de la totalité de ces 12 ou 13 millions, sont partis ce qu'on appelle en droiture, c'est-à-dire directement des côtes africaines vers le Brésil. Et donc la moitié, un peu plus de la moitié, dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire, qui était surtout la grande époque britannique et française et britannique, du XVIIe et du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Mais les Portugais, c'est eux qui massivement se chargent de la traite, je dirais, au XVe siècle, avant que l'Amérique ne soit découverte, parce qu'ils importent des esclaves dans la péninsule ibérique à ce moment-là, et puis au XVIe siècle, bien entendu, dans la première moitié du XVIIe siècle, et ils continuent après, mais ils vont faire beaucoup de traite dans la première moitié du XIXe siècle, parce que les Britanniques, je ne réponds pas à votre question, mais j'y arrive dans un instant, les Britanniques, en fait, la grande idée des Britanniques, il faut supprimer la traite atlantique pour affaiblir la France. La Grande-Bretagne, je simplifie, la Grande-Bretagne a déjà fait sa révolution industrielle. Les colons, évidemment, anglais, ne sont pas du tout d'accord, mais le pouvoir britannique en Grande-Bretagne a d'autres objectifs, et finalement, en 1815, c'est tout à fait visible dans les discussions, il faut absolument que la traite puisse être interdite pour que la Grande-Bretagne ait le contrôle des mers, et en particulier de l'Atlantique. C'est un facteur politique. Tu disais, il y a des facteurs il y a aussi les facteurs économiques, etc., mais il y a un facteur politique. Alors, dès le XVIe siècle, vous avez quelques quelques esclaves qui arrivent à être affranchis au Brésil, qui utilisent les lois pour revenir, et vous avez donc eu un phénomène qui a commencé dès le XVIe siècle et qui s'est beaucoup développé dans la première moitié du XIXe, où les Portugais avaient le droit, la tolérance par la Grande-Bretagne de faire la traite au sud de l'équateur. Alors si vous regardez la carte, au sud de l'équateur, il y a le Brésil d'un côté, il y a l'Angola et le Mozambique de l'autre, c'était clair. La Grande-Bretagne ne voulait pas que la France fasse de la traite, mais elle voulait bien que le Portugal, qui était son allié, le fasse. Donc il y a ce qu'on appelle les Afro-Brésiliens, c'est-à-dire des descendants d'esclaves affranchis qui eux-mêmes ont fait la grande activité de l'époque. Depuis le XVIe siècle, la grande activité internationale, c'était la traite des esclaves. Qui font le trafic, et il y a beaucoup d'allers-retours entre l'Angola et le Brésil. Beaucoup, avec une société créole, avec des femmes qui naviguent aussi. Enfin, bref, beaucoup, ça veut dire quelques dizaines, quelques centaines, hein, il ne faut pas exagérer, pas 10 millions, mais enfin, il y en a eu. Et alors, côté Atlantique Nord, il y a quelques aventures extraordinaires qui ont été contées. Alors, en particulier, une du XVIIIe siècle qui était frappante, c'est donc en Virginie, un esclave éduqué, islamisé, qui sait parler et écrire arabe, arrive dans une petite plantation. Il a un maître qui apparemment n'est pas trop méchant. Il écrit une lettre en arabe. Le maître l'apporte dans la ville voisine à un marchand d'esclaves qui l'envoie à Londres. À Londres, la lettre arrive à la compagnie esclavagiste de l'époque. Finalement, elle arrive en ce qui va devenir la Gambie. Etc. Il s'agit d'un fils de chef, ça arrange la compagnie, et 3 ans après, fin du XVIIIe siècle, l'esclave de Virginie se retrouve chez lui. Et qu'est-ce qu'il fait chez lui, c'est-à-dire sur les rives de la... Eh bien, il reprend le commerce des esclaves. On le connaît d'autant mieux que, d'une part, l'histoire a été racontée, c'est pas lui qui l'a écrite, elle a été transcrite en anglais par un de ses protecteurs, justement, un anglais philanthrope de la fin du XVIIIe siècle, et il est associé avec un commis de commerce britannique en Gambie, qui le cite et qui raconte ce qui se passe et qui montre d'ailleurs quelque chose de très intéressant, parce qu'il faut le dire, bien entendu, tous les Africains n'étaient pas négriers. C'était quelques chefs, parce que ça les intéressait beaucoup, et puis pas mal de brigands, parce que c'était un moyen de gagner sa vie, c'est-à-dire une petite minorité, en tous les cas au démarrage, une toute petite minorité. Alors l'anecdote est tout à fait intéressante. Les deux amis, donc l'Africain et l'Anglais, sont assis au bord de la rivière Gambie, ils discutent. Tout d'un coup, l'Africain se précipite en disant « je vais les tuer ». Reconnaît les deux voleurs, rapteurs, qu'il avait fait esclave 3 ans avant. Alors l'anglais le tire par les basques pour l'empêcher de le faire. Mais ça montre que c'est un tout petit monde, en fait. C'est un tout petit monde très important, parce qu'ils font le lien avec nous, mais ils n'étaient pas très nombreux, surtout à cette époque-là.
Et vous avez aussi un autre élément, un vecteur intermédiaire. Alors, ce sont les marins. Il y a à bord, alors surtout, manifestement, surtout à bord des navires portugais. Mais Oulahouda lui-même a été marin. Alors, pas dans la traite négrière. Il y a les marins qui sont des vecteurs, des intermédiaires, dont certains sont des noirs qui ont été affranchis, ou même dont certains peuvent être des esclaves.
Ben oui, des esclaves sur les bateaux, il y a tout à fait des esclaves qui sont utilisés. Les femmes pour la cuisine, les hommes aident à la navigation, et puis de temps en temps. Ils s'organisent effectivement pour organiser une révolte, et de temps en temps ils gagnent. Le plus souvent ils sont jetés à la mer.
Et puis il y a un non-dit qui est parfois d'ailleurs problématique dans le rapport mémoriel qu'entretiennent certains avec cette histoire, c'est que c'est ce que disait Catherine, c'est l'affaire qui rapporte et c'est pas une couleur de... Alors évidemment, là encore, il faut être clair, c'est le cas de le dire, l'essentiel des négriers et ceux qui organisent le trafic à l'origine, en tout cas ce trafic-là, il y en a d'autres, mais celui dont on parle, de la traite atlantique, ça vient des ports européens et tout ça est pensé, organisé au départ par les ports européens. Mais à aucun moment, jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à la colonisation, les Européens ont pu se passer des intermédiaires locaux. C'est-à-dire que il faut l'affirmer, des Africains, alors quand on dit des Africains, encore de quoi parle-t-on, mais en tout cas, un nombre d'intermédiaires sur toute la côte sont des intermédiaires africains qui sont des partenaires avec les négriers blancs. Et là, il y a toute cette histoire compliquée qui va évidemment faire naître des métissages. Actuellement, l'État sénégalais a des fins mémorielles et politiques, met beaucoup en scène l'île de Gorée. Et dans cette île de Gorée, on évoque souvent, et on les montre d'ailleurs, ces femmes qui étaient des intermédiaires métisses, qu'on appelle les signards. Les signards, ce sont les signards, c'est un mot d'origine portugaise qui veut dire les dames. En fait, ces dames, ce sont des femmes africaines métissées qui vivent en union libre avec des négociants, des Européens, selon les moments, français, anglais ou hollandais, qui sont à Gorée, et qui épousent, d'ailleurs, ces dames sont épousées à la manière du pays. C'est-à-dire que lorsque le monsieur rentre, elle continue à faire tourner les affaires. C'est-à-dire qu'il y a tout un petit monde d'intermédiaires africains ou d'intermédiaires qui sont passés par l'esclavage au Brésil, qui ont été affranchis et qui, par différents biais, se retrouvent en Afrique. Et puis, dernier exemple, qui malheureusement est terriblement d'actualité aujourd'hui, mais dans le contexte de ce qui se passe au Sierra Leone et au Liberia, c'est ce projet des abolitionnistes américains. Parce que les États-Unis ont un problème, c'est que leurs esclaves sont parmi eux. Si j'ose dire, du point de vue européen, du point de vue français, anglais, hollandais, tout ça, c'est loin. Les Nantais n'ont jamais vu, d'esclaves quasiment, parce que
très peu.
Ou alors ceux qui revenaient des Antilles comme ça pour apprendre un métier. Alors que les États-Unis ont ça. Et quand ils deviennent indépendants, leur grand problème, c'est parce qu'ils veulent bien abolir, mais de là, entre abolir et donner la citoyenneté, à part même les pères fondateurs, ça coince quelque peu. Et il y a tout un projet contre lequel, d'ailleurs, s'élève avec beaucoup d'intelligence Frédéric Douglas, et auquel avait participé antérieurement Oulahouda avant de le dénoncer. C'est l'idée de rapatrier, entre guillemets, les esclaves ou les descendants d'esclaves. Les descendants d'esclaves, parce que là, on est en... Voilà. Et de les rapatrier, entre guillemets, en Afrique. Ce que refuse Frédéric Douglas en disant « Mais personne ne m'attend là-bas. Je suis un Américain, je suis un Américain. Personne ne m'attend là-bas. Et dans quelles conditions va-t-on me rapatrier ?» Et il y a tout un projet. En fait, on voit bien ce qui est derrière. L'idée, ça serait de reblanchir. Il y avait même eu l'idée d'avoir un État noir. C'est, en fait, ce qui travaille la société américaine, la société états-unienne, c'est la question de l'égalité. C'est comment accepter que celui qui est esclave et celui avec cette particularité de cet esclave-là, c'est que c'est un esclavage racialisé. Comment accepter que l'ancien esclave, en plus ça se voit à la couleur de sa peau, puisse devenir un citoyen libre et égal en droit selon les principes de la démocratie américaine.
Mais il ne le deviendra pas puisqu'il sera ségrégué.
Question ?
Il a fini par le devenir.
Mademoiselle, madame.
Bonjour, je m'appelle Fabienne Tranchant. Je suis responsable de l'Université populaire du CM 98. C'est une association qui a beaucoup travaillé justement sur les archives en France qui permettent de retrouver donc, le nom qui a été donné aux esclaves en 1848 à l'abolition. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais vous remercier parce que vous nous avez appris beaucoup. C'était très riche. Et je voudrais en fait poser deux questions. L'une peut-être aux jeunes filles qui ont lu le texte, parce que je pense que ça les concerne aussi, c'est comment donc ça vous concerne aussi, M. Ménard, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, comment, en tant que, entre guillemets, externe, puisque nous, on est descendants d'esclaves, mais entre guillemets, en tant qu'externe à cette histoire, vous arrivez à humaniser justement l'esclave, parce qu'on dit les esclaves, comme si c'était des... Voilà, 12 millions, comme vous disiez tout à l'heure. Comment vous avez donc réussi un petit peu à humaniser vos recherches? Vous parliez un petit peu du portrait, peut-être la deuxième...
Déjà, je voulais juste vous poser une question un peu provocatrice. Qu'est-ce qui vous prouve que je ne suis pas descendant d'esclaves?
Mais vous savez, en 1840, il y a eu un procès extraordinaire aux États-Unis d'une jeune fille blonde aux yeux bleus dont le père et la mère étaient esclaves noirs et qui a fait un procès à l'État fédéral pour dire, puisque je suis blanche, je ne dois pas être esclave. C'est remonté trois fois tout en haut parce que les juges n'arrivaient pas à décider. Ça a duré une douzaine d'années et ça n'a jamais été solutionné parce qu'entre-temps, il y a eu la guerre de sécession et que le problème a été réglé autrement.
Mais par ailleurs, toute provocation facile mise à part, je ne suis pas descendant d'esclaves, mais Myriam Cotias, qui est, comment dire, peut-être encore plus claire que moi, surtout en fin d'été, Myriam Cotias, qui est historienne, et ça ne se voit pas, est descendante d'esclaves. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut être très prudent sur ces questions-là.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans votre réponse, vous aviez un petit peu donné une réponse, c'est-à-dire que vous avez eu besoin de tableaux pour humaniser, alors que nous, en fait, on a déjà nos familles. Donc, si vous nous aviez dit vos recherches m'ont amené à retrouver mon ancêtre, etc., vous auriez pu avoir ce biais-là pour l'humaniser, entre guillemets.
C'est une illusion.
Donc, comme vous ne nous l'aviez pas dit, j'ai supposé, entre guillemets, que vous n'aviez pas...
C'est la prochaine question, mais c'est une illusion.
Et donc, justement, comment vous avez pu humaniser, à part avec ce tableau, peut-être, voilà, effectivement. Et donc, aux jeunes filles qui ont lu ce texte, apparemment un peu travaillé dessus. Comment elles ont ressenti cette histoire? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous en dire en deux mots? C'était une grande question, désolé, mais voilà. Peut-être que
M. Bénard
commence
non. à répondre. Non, c'est une question si les jeunes filles à Claire et Keliani, c'est ça?
Voilà. Hein?
Donc, mesdemoiselles, si vous voulez répondre.
Mais vous n'êtes pas obligé de
répondre. Levez-vous, s'il vous plaît.
Est-ce qu'elle peut peut-être reformuler la question? Parce que je ne suis pas sûr qu'elle
oui.
bien...
Alors, demander
Je vais répondre quand même. Je vais vous donner ma réponse en une phrase, ce qui est rare chez moi. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ça veut dire aussi que le négrier est un être humain. Ah.
Monsieur avait demandé la parole aussi. Oui, puis monsieur Romana. Monsieur, oui, vous en priez.
Il y a des traces écrites du côté anglophone et pas du côté francophone. J'aimerais savoir, au niveau donc, francophone, sur quoi vous basez pour faire vos recherches.
Mais écoutez, du côté francophone, les recherches n'ont commencé que... Les recherches... Il y avait quelques spécialistes qui travaillaient sur les questions, il y avait des textes connus, il y avait des textes en anglais, etc. Il n'y avait pas rien. Mais en fait, il n'y avait pas de recherche organisée à très large échelle et avec liaisons internationaux. Ça a démarré, véritablement, la recherche fondamentale d'ampleur et collective a démarré avec la création d'un laboratoire CNRS, dirigé par Myriam Cotias, sur l'histoire de l'esclavage et en particulier de la traite essentiellement atlantique, pas seulement, mais et surtout. A remarqué que ça a démarré en Afrique, chez les historiens africains aussi, je dirais francophones, je parle, parce que côté francophone, on a toujours, de ce point de vue-là, sur l'histoire africaine, tendance à avoir un demi-siècle de retard sur les anglophones, anglophones d'Afrique et anglophones de Grande-Bretagne. Ça a démarré la même année. C'est quand même très intéressant. En 1998, vous avez eu la marche des Français antillais à Paris, qui a été un déclic visible. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien avant, bien entendu, mais en fait, ça a été un déclic visible dans les rues de Paris, qui a enclenché, malgré tout, qui a facilité, je simplifie, la loi Taubira, qui a facilité l'enseignement et qui a... En Afrique, c'était comme en France et comme dans les îles, où avant les années 90, c'était honteux de parler de l'esclavage. C'était honteux pour les Français blancs qui se sentaient un peu morveux quand même, descendants d'esclavagistes. Parce qu'on fêtait beaucoup Schellcher et l'émancipation des esclaves, mais qu'est-ce qui s'était passé avant ? Pour émanciper les esclaves, ben, il fallait qu'il y ait eu de la colonisation esclavagiste française. Et ça, c'était tabou. Mais c'était tabou aussi du côté des descendants d'esclaves parce que c'était honteux. C'était un passé à oublier. En Afrique, chez les historiens, je parle vraiment des historiens chercheurs, ben c'était la même chose. C'était honteux de penser qu'il pouvait y avoir eu des Africains noirs qui avaient été esclavagistes. Et puis aussi, c'était fondamentalement honteux d'avoir un ancêtre esclave. On n'en parlait pas, on n'en disait pas. Maintenant, on peut dire qu'on a un ancêtre, et on le sait par les noms, casté. Mais dire à quelqu'un, ou penser de quelqu'un, ou dire de quelqu'un qu'il a un ancêtre esclave, c'est une injure profonde. Donc il y avait un tabou. Et en 1998, pour la première fois, un historien, Hardy, Ibrahim Atioub, a fait une communication sur l'existence possible de marchands d'esclaves noirs, et de 1998, la même année. Et aujourd'hui, vous avez donc toute une équipe qui fait partie de ce laboratoire international, Ibrahim Atioub qui nous a fait une introduction, et dans 15 jours, un colloque international panafricain, je dirais, qui se tient à Nairobi pour étudier l'histoire de l'esclavage dans les sociétés africaines. C'est-à-dire que vous avez un démarrage tardif, et quand on a un démarrage tardif, ben les découvertes, elles arrivent tous les jours. Et qu'on n'est que sur le chemin.
Sur le monde, on va dire, caraïbo-francophone, en incluant Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Domingue, Haïti, je crois qu'il y a un travail en amont. Alors là encore, les historiens ont fait... il faut éviter, il y a toujours des historiens qui travaillent sur ces questions, mais ce sont surtout les écrivains. Et je pense bien évidemment aux travaux de Césaire, alors là, sur la question... sur la question de Toussaint et sur la question de l'indépendance nègre d'Haïti. Il y a toutes sortes de travaux qui viennent, je pense aussi à un très beau livre qui montre cette difficulté qu'ont les Antillais par un récit. C'est le livre de Rukaz Nègre de Zobel, qui a été mis en film par Rosane Palsy. Et on voit ce rôle, ce personnage magnifique qui est le vieux Médouze, qui raconte à José, qui transmet à José cette mémoire à la fois de l'esclavage et de l'abolition de 48. Mais pour les collègues, notamment une collègue qui est anthropologue, qui s'appelle Christine Chivalon, travaille et vient de publier un livre chez Cartala sur la mémoire et sur les usages de la mémoire de l'esclavage aux Antilles. Et elle a interviewé beaucoup de personnes, justement, pour voir comment ça passait, comment ça se transmettait, parce qu'il y a eu probablement silence dans certains lieux, et même dans beaucoup de lieux, mais il n'y a pas eu oubli. Donc comment, ça passe par où? Ça passe par la chanson, ça passe par des expressions en créole, ça passe par des gestuels, ça passe par plein de choses. Donc c'est pas parce qu'on n'en parle pas à l'université. Et puis, autre élément, l'Université Antiguyane est une université récente où des collègues travaillent. Les fondateurs de l'Université Antiguyane sont en fait des profs d'histoire, je parle pour les historiens, sont des profs d'histoire du secondaire qui n'arrivaient pas à répondre à des questions tout à fait légitimes qu'ils se posaient eux-mêmes ou que se posaient leurs élèves. Et ils se sont dit, après tout, on va faire nos thèses. Je pense à quelqu'un comme l'IPR, comment il s'appelait, il s'appelle toujours d'ailleurs. Enfin bon, des collègues dont le nom m'échappe provisoirement, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Mais pour dire que cette histoire-là, elle s'écrit. Il y a, on n'est pas les inventeurs, pas non plus, c'est pas nous et notre génération qui a inventé ces histoires. Le gros boulot des années 80, ça commence en France, hein, avec Daget, notamment Serge Daget, où il va compter, c'est un Nantais, enfin il travaille sur l'histoire nantaise, et le gros travail des historiens, là c'est sur les traites. On est en pleine période d'histoire quantitative, il y a un énorme travail, qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui de pouvoir dire qu'on a, on est de 12 à 13 millions de déportés avec une certaine certitude du point de vue du travail scientifique. Donc il y a un gros travail qui est fait de dénombrement, et il fallait faire ce travail. Il y a tout un travail qui est fait d'histoire sociale que je n'ai pas évoqué, y compris des géographes qui ont beaucoup travaillé sur la plantation à la Martinique, à la Guadeloupe, et sur les traces de ces plantations. Il y a toute une histoire sociale qui est très riche de biens. Enfin, il y a des historiens qui sont des historiens du siècle dernier, enfin des années 1950-60, qui travaillent, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites, en fait. Enfin, des choses qui sont faites. Le problème, c'est la diffusion. Et l'autre problème, c'est la non-reconnaissance de ces travaux par l'université. Ce qui a débloqué, c'est effectivement la création de l'Université Antiguyane, parce que là, il y a une demande tellement forte que, bien évidemment, nos collègues, pas tous, mais nos collègues de l'Université Antiguyane vont travailler sur la question. Et puis, je vais finir par un exemple anecdotique personnel que j'utilise souvent pour montrer que les choses ont quand même évolué. J'étais pas très loin d'ici, dans une petite université qui s'appelle Paris 1. Je voulais faire ma maîtrise, donc vous voyez, ce n'était pas un enjeu majeur, c'est des années 75. On m'explique, mais vraiment, je vais voir des gens tout à fait honorables, y compris pour lesquels j'ai un très grand respect en tant que chercheur. Et ils me disent, un peu embêtés pour l'un d'entre eux, les autres non, mais un d'entre eux que je respecte, qui a d'ailleurs accepté d'être dans le jury de ma maîtrise, Monsieur Drauss, qui était vraiment quelqu'un de très très bien, et il me dit un peu embêté, on fait quand même ici à la Sorbonne, on fait pas ça. Alors ils m'ont envoyé, c'était pratique, ils m'ont envoyé à côté du zoo, enfin, à l'époque ça s'appelait Paris, c'était l'université de Vincennes. Et à Vincennes, c'est un spécialiste de l'histoire algérienne, Galisso. D'ailleurs, à ce propos, 17 octobre aujourd'hui, un petit moment de... Hein, on noyait des gens dans la Seine il n'y a pas quelques années.
17 octobre 1961.
Oui. Et Galisso, spécialiste de l'indépendance de l'Algérie, accepte un petit étudiant. Bon, petit étudiant, lui, à faire travailler sur l'histoire de la Martinique et le Guadeloupe. Mais je ne trouve pas en 1975-76, je ne trouve pas à Paris 1, je ne parle même pas de Paris 4, je ne trouve pas à Paris 1 quelqu'un qui accepte de diriger la maîtrise d'un étudiant qui veut travailler sur l'histoire des Antilles, on va dire, au début, ce n'est pas très précis. Quelqu'un très gentiment accepte à Vincennes, mais ce quelqu'un n'est pas spécialiste, il est spécialiste de l'histoire algérienne. Donc on a beaucoup avancé, mais malgré tout, si on veut faire carrière, même encore aujourd'hui, il y a très très peu, c'est un vrai problème, parce que c'est dans les programmes d'histoire à l'école élémentaire et dans le secondaire, c'est très bien, et c'est une bonne chose. Ça a permis de légitimer ou d'inciter certains éditeurs à publier des choses sur cette histoire-là. Donc il y a une grande production, cette question-là. Mais pour l'instant, l'université française... Alors, il y a un centre qui s'est développé à Nantes, du côté de la traite. Oui. Les Bordelais, ça traîne un peu, mais ils font des choses du point de vue mémoriel. Hein. Tout arrive, même à Bordeaux. Les Rochelais, oui, c'est pas la même taille de ville, mais on est du côté de la traite. Du côté de l'esclavage, beaucoup de production de nos collègues américains au sens très large, dont nos collègues des Antilles-Guyane. Mais c'est vrai que l'histoire sociale qui a été faite, le travail de plantation, je l'ai évoqué, là, ce que dirige notamment l'équipe qu'a évoqué Catherine avec Myriam Cotias, c'est aussi maintenant de travailler sur la Gen 6. On a fait cette histoire sociale à grande ligne est faite, sur l'histoire économique et sociale à grande ligne est faite. Maintenant, la tendance, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire travailler sur les acteurs sociaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compté, maintenant on s'intéresse aussi à ceux qui comptent, c'est-à-dire à la façon dont ils agissent, dont ils réagissent, dont ils se révoltent, dont ils se débrouillent, parce que voilà, on n'est pas tout le temps en train de se rebeller, on n'est pas tout le temps en train de faire la révolution, on n'est pas tout le temps en train de marronner. Si on avait été tout le temps en train de faire la révolution, se rebeller et marronner, on n'aurait pas produit des tonnes et des tonnes de sucre. Donc il y a aussi cette vie quotidienne, je dirais, au ras et au cœur de la plantation, qui a été travaillé, alors je pense notamment aux travaux d'un collègue qui est lui maintenant à Paris 1, comme quoi vous voyez tout arrive, même à la Sorbonne, qui est Frédéric Régent, qui a fait sa thèse sur la Révolution française aux Antilles et sur la question du métissage, et qui a écrit un très très beau livre chez Fayard qui s'appelle La France et ses esclaves. Et donc Frédéric Régent est maintenant maître de conférence ici, et donc vous voyez, tout avance, mais tout avance très lentement.
Alors, bien que ça soit terminé, il y a deux personnes qui avaient élevé la main, monsieur Romana et puis monsieur ici. Monsieur Romana, je vous en prie.
Écoutez, Madame Coquille-Louis, sur Monsieur Ménard, moi j'ai lu votre livre évidemment avec beaucoup d'attention, vraiment dans le texte, il est extraordinaire, je conseille vraiment à tout le monde de vraiment le lire. Il m'a appris dans la même chose, que, vraiment c'est remarquable. Vraiment, il est remarquable, je pense qu'il va faire du bruit, il fait déjà du bruit aux Antilles, je peux vous assurer, beaucoup de bruit. Bien. Moi, je voulais simplement porter juste un petit témoignage sur justement la difficulté de parler de cette histoire, en tout cas de produire en Guadeloupe et en Martinique, à partir simplement d'une histoire personnelle. Il faut se rendre compte que cette histoire a été... c'est comme si maintenant on commence à sortir de trou noir, de marécage, quelque chose de pas clair du tout. Quelque chose sur lequel nous n'avions aucune visibilité. Et voyez-vous, lorsque j'ai retrouvé mon aïeul, dont le matricule était 53-22, il a fallu que je le dise à mes tantes. Parce que mon père était déjà parti, il restait de ma famille, donc il portait le nom de Mana, que deux tantes, il y a de ça 4-5 ans. Donc en l'occurrence, hein, c'est-à-dire que pour que les gens puissent comprendre, il a fallu nommer des personnes, il y en avait 150 000 à nommer en Guadeloupe et en Martinique, et donc l'association dans laquelle donc, le groupe démarche avec moi-même, nous en avons retrouvé 120 000. Nous avons épluché les arbres, bref. Et donc, ma famille m'avait toujours raconté que mon oncle Mana venait d'un négrier qui avait fait un enfant avec une latresse. Mais comme il n'avait pas voulu lui donner son nom, eh bien, il avait acheté le nom romain. Et en retrouvant dans les archives que les belles marquées Juliette, âgée de 30 ans, Néomoule, demeurant au Moule, immatriculée sous le numéro 53-22, et Roland Charles, Néomoule, demeurant au Moule, 2 ans, immatriculé sous le numéro 98-12, la dite Juliette nous ayant présenté le dit Roland Charles comme étant son fils, nous leur avons donné à tous les deux le nom de Roman. Là, nous sommes le 14...
Excusez-moi, elle est affranchie avant 40. Oui.
Non, nous sommes le 14 septembre 1848. Elle fait partie à près de la centaine de personnes qui, ce jour-là, viennent prendre un nom, comme on le dit. Donc, ça ne correspond pas du tout, en fait, à la légende familiale. Et lorsqu'on me le dit, on me dit, mais Serge, ton nom se trouve sur les registres d'immatriculation. Est-ce que tu connais Juliette? Oui, je connais ma tante Juliette. Mais bon, 1848. Alors là, franchement, il faut bien vous imaginer que j'ai vraiment la sensation que le sol se dérobe. Mais vraiment, je pense que beaucoup d'entre nous ont ressenti ça. Mais bref, l'idée, c'est d'aller dire ça à mes parents. Et je sais que je ne peux pas leur dire ça comme ça. Donc, on fait un repas. L'entrée se déroule. Ils savent que je viens de leur parler de ça. L'entrée se déroule normalement. Le repas, le dessert est arrivé. Et là, ils me disent, mais Serge, tu as quelque chose à nous dire. Alors là, je leur demande, est-ce que vous savez d'où vient le nom? Elle me raconte une histoire. Puis il y en a une autre qui me dit, oui, je crois même que ça vient d'Israël. Voilà. Et je leur dis, je leur montre l'acte. Et là, grand silence, total, profond. Et une demi-tante dit, bon, mais c'est pas grave. Et je crois que ceci montre la difficulté, et peut-être aussi, de produire des choses. Parce que lorsque même une société elle n'est pas mûre pour ça, lorsque c'est toujours honteux, là, je voulais simplement vous donner un exemple très précis de ça, dans ma propre famille, eh bien, ça peut peut-être expliquer effectivement pourquoi bon, les choses sont arrivées tardivement, mais elles sont là. Elles arrivent et ça commence à devenir insupportable. Parce que le vrai problème, c'est qu'il puisse avoir une mémoire de cette histoire supportable. Et ça, c'est pas évident. Mais ça se fait, vraiment, vous assurez que ça se fait. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup, pour ce livre qui m'a fait comprendre que l'esclavage ne commence pas là, mais vous avez cité cet exemple, l'an 800 après Jésus-Christ à Bassora, une révolte d'esclaves dans les champs de canne à sucre. Donc ça ne commence pas là,
c'est les Zenges, c'est ça. Les merci beaucoup. Alors j'avais promis, monsieur, je vous en prie. Oui, et après on s'arrêtera. Et là,
je voulais intervenir parce que je suis, j'ai une particularité, je descends des rois du Bénin. Le Bénin fut l'un des grands forts d'Église. Le Bénin fut l'un des grands forts d'Église en Afrique de l'Ouest. Et le fait de descendre des rois du Bénin, j'assume ce qui s'est passé. Assumer veut dire qu'on peut avoir un recul sur l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Et quand on fait allusion au fait que l'esclavage existait en Afrique bien avant, je trouve que c'est assez vague, puisque ça dit que ça, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a. Est-ce que vous parlez de l'esclavage arabe ou musulman? L'esclavage, c'est-à-dire la vassalité qui est entre les royaumes africains, qui est, dans le cas du royaume d'Abomey, dont je suis issu, va avoir des conséquences. Parce que quand Abomey va se retrouver dans la situation de vassalité avec le royaume de Iba, de York, cela va pousser Abomey à prendre conscience que soit son peuple va être dépeuplé, soit il sera obligé de prendre part à la traite qui avait déjà commencé au niveau de l'Italie, qui sera le grand port où tous les 5 pays européens qui ont pris part à la traite seront présents. C'est-à-dire les Danois, les Portugais, les Hollandais, les Français et les Anglais. Et l'histoire des Afro-Brésiliens qu'il y a eu une connexion entre le Bénin et le Brésil, sachant que le roi Gazo, sa mère nourricière, sert le boulot au Brésil. Et ça va favoriser tout cet échange. Vous voulez dire que l'histoire vue par rapport à l'Europe, il faut que des fois, c'est vrai, c'est les archives européennes. Mais ce que je veux vous demander, est-ce qu'il y a un travail qui est fait avec les historiens des pays africains? Le Bénin est un cas d'école qu'on devrait, donc on doit se pencher et qu'on ne fait pas assez.
À votre question, alors, vous avez une minute pour répondre, pas plus.
Alors, je vous ai répondu à l'instant, et c'est vrai, il y a plusieurs historiens béninois qui travaillent sur, qui ont travaillé sur la traite des esclavages. Depuis assez longtemps, le professeur Soubouni en particulier, et il y en a d'autres. Et d'une façon générale, au colloque qui va avoir lieu à Nairobi, ce sont...
Nous serons tous.
Si vous nous invitez, moi je
les trois quarts des participants seront des historiens africains qui travaillent sur l'histoire de l'esclavage dans les sociétés africaines, qui a été très variée de, suivant les régions. C'est très très grand l'Afrique. Ça n'était, si vous voulez, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que c'était qu'être esclave d'une façon générale dans une société. Ben, être esclave, la définition la plus large et la plus simple possible, c'est d'une part être considéré comme être possédé, pas être la propriété, mais être possédé pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire ne pas avoir d'existence valable. Et dans les sociétés africaines, je voulais dire, c'était être moins que rien, ne valoir rien, quoi, représenter pas grand-chose. Donc évidemment, être chargé des travaux les plus embêtants, que ce soit dans le cadre de la maisonnée ou que ce soit ailleurs. Et puis, par ailleurs, être déraciné, c'est-à-dire avoir été pris à sa famille, suffisamment loin pour ne pas pouvoir y retourner tous les week-ends, et par conséquent, ne plus avoir d'ancêtres. Et ne plus avoir d'ancêtres dans les sociétés anciennes, c'était ne pas exister, parce qu'on n'avait plus que les ancêtres de son maître. Et c'est pourquoi, dans un certain nombre de sociétés, Ibrahim Mathioub explique très bien que, dans les têtes, bien entendu, l'esclavage existe encore quelquefois un peu partout, mais c'est tout à fait illégal, mais dans les têtes, on est descendant d'esclaves jusqu'à la fin des temps. Comme on est descendant d'une autre caste, etc. Donc, c'est vrai que cette histoire-là, elle commence à être faite par les historiens africains, essentiellement parce que c'est eux qui peuvent trouver les documents, les mémoires, tout ce que Eric disait sur les Caraïbes, c'est la même chose. Quand il n'y a pas de documents écrits, il y a bien d'autres façons d'arriver à faire l'histoire. Mais c'est un travail qui est en train d'être fait, absolument.
Encore trois petites choses, donc tous à Nairobi dans 2 semaines, c'est bien compris. Si vous voulez, vous pouvez poursuivre également avec le Festival des Outre-mer. C'est demain à la Maison de la Martinique où je serai avec Alfred Alexandre qui vient de sortir un livre, sur un essai sur Césaire. Il est connu notamment pour Bord de Canal et Dans les villes assassines, et il y aura aussi Fabienne Canor qui a sorti son roman l'an dernier, Faire l'aventure. Donc demain, c'est à 14h30 à la Maison de la Martinique. Et troisième chose, vous retrouvez nos deux auteurs, Catherine Cochry-Vidrovitch et Eric Ménard, maintenant pour signature, discussion, échange, etc. Merci. Bonne soirée.